Chapitre 13. L'appétit de l'araignée peut souvent paraître insatiable. Son abdomen se gonfle pour accueillir un surcroît de nourriture. Tiré de How to Know the Spiders, 3e édition, B.J. Caston, 1978. Kimberly retrouva Sal à l'Atlanta Bread Company. Il mâchonnait un sandwich, une trace de mayonnaise sur la joue droite. Bien qu'il ait accepté le rendez-vous, il semblait méfiant lorsqu'elle arriva. « Joue de Bruxelles », s'étonna-t-elle en inspectant son déjeuner. « C'est drôle, tu ne m'avais pas paru du genre à manger des choux de Bruxelles. » « Eh, j'aime les légumes. Et puis, après des McMuffins à la saucisse pour le petit déjeuner... Ça t'arrive de cuisiner, Sal ?»«
Le moins possible.
» Moi aussi. » Elle s'assit, fit glisser sa sacoche en cuir marron de son épaule pour y chercher son déjeuner.
« Tu vas encore manger de la crème dessert ?» demanda Sal.
« Fromage blanc aux myrtilles. Faut bien prendre des protéines sous une forme ou une autre. »«
T'en es à combien ?»«
Presque 22 semaines. »«
Ça se voit pas. »
« C'est la crème dessert, lui assura-t-elle.
« Tu as des enfants ?»
Il fit signe que non.
« Je ne suis même pas mariée.
» Il y en a que ça n'empêche pas de procréer. « Certes, mais j'aime respecter les traditions ou remettre les choses au lendemain. « J'ai pas encore décidé entre les deux.
« Il bouge ?»«
Quoi, le bébé ?»«
Oui, le bébé. Je te demande pas comment va ton fromage blanc. »«
Ouais, elle commence. » Plein de petits mouvements qui augmentent petit à petit si j'essaye de manger ou de dormir. Quand je fais rien, naturellement, elle est parfaitement calme.
Elle ?
C'est mon hypothèse.
Mac veut un garçon. Un lanceur pour la première division de baseball, je crois.
C'est quoi votre problème avec ça, les gars ?
Ah, c'est important, le sport, répondit Sal avec sérieux. Sinon, qu'est-ce qu'on ferait le lundi soir ?
Kimberly attaqua son fromage blanc. Elle avait beaucoup de choses à raconter, mais il lui semblait plus juste de laisser Sal prendre les commandes. Il en avait probablement gros sur la patate. De fait, il n'y alla pas par quatre chemins.
Sympa, Quincy, de me balancer un nom comme ça. Juste assez d'infos pour me donner l'impression que ça t'intéressait, mais sans réellement te découvrir. Tant qu'à me faire entuber, je dois dire que je me suis fait entuber en beauté.
Tu penses que j'aurais dû te parler de la chevalière, hein ?
L'idée m'a traversé l'esprit.
Kimberly écarta les mains. Elle avait un peu réfléchi à la question, et voilà ce qu'elle avait de mieux à proposer.
« Écoute, on peut passer le quart d'heure qui vient. Toi, à râler parce que j'ai gardé la chevalière pour moi, et moi, à râler parce que t'as essayé de faire parler une informatrice qui m'avait réclamé. Ou alors, on peut s'entendre sur le fait que nous sommes tous les deux des enquêteurs teigneux et revenir à nos moutons.
Je ne te fais pas confiance, tu ne me fais pas confiance, mais comme aucun de nous deux n'est digne de confiance, on devrait s'entendre à merveille. »
« Exactement. »
Sal étudia la question.
« Pas bête, » concéda-t-il.
« Continue. » Il termina son sandwich, s'essuya la bouche. Il rata la mayonnaise sur sa joue et, sans y penser, Kimberly l'enleva avec son doigt. L'intimité du geste la frappa a posteriori et elle se radossa dans son siège, gênée. « Donc, dit-elle en fouillant dans son fromage blanc à la recherche d'une myrtille, « Delilah Rose m'a donné une chevalière de lycée qui appartenait soi-disant à Ginny Jones. J'ai pu établir que c'était celle de Tommy Mark Evans, diplômé du lycée d'Alpharetta en 2006. Ginny Jones était dans la même classe.
Ils sortaient ensemble ?
Harry, l'entraîneur, ne le croit pas. Dans son souvenir, Tommy avait fréquenté une certaine Darlene Angler pendant la majeure partie de la saison, mais il avait peut-être rompu avant la fin de l'année. Il n'était pas certain de ce détail. Mais j'ai discuté avec la secrétaire de l'établissement qui va remettre la main sur un annuaire du lycée pour nous. Avec un peu de chance, il arrivera d'ici la fin de semaine. Elle a regardé la fiche de Virginia Jones pour moi.
« Sans mandat ?» s'étonna Sal. J'avais pris ma voix la plus agréable.
Et puis, c'est pour ça qu'on s'adresse aux secrétaires. Elles sont formatées pour consulter des dossiers pour tout le monde à chaque instant. Elles ne prennent pas le temps de se demander pourquoi.
Bien vu.
Donc, Ginny a fréquenté le lycée d'Alpharetta pendant 4 ans, mais n'a pas obtenu son diplôme. Elle a arrêté les cours en février, elle n'est jamais revenue. D'après son dossier, l'école a appelé chez elle en vain. Pour finir, il y a un post-it jaune avec une note manuscrite. Il semble que la famille ait quitté la ville.
J'imagine que les choses en sont restées là. Ginny était sous la responsabilité d'un parent, sa mère, Veronica L. Jones. J'ai passé quelques petits coups de fil. Veronica L. Jones travaillait comme serveuse au Hungry Man Diner. Mais, d'après le gérant, elle ne s'est pas présentée pour prendre son service. Et ils n'ont plus jamais eu de ses nouvelles. Mais ils ont un dernier chèque pour elle au cas où je parviendrai à la localiser. Sal écarquilla les yeux. Elle aurait laissé une paye derrière elle. Pas bon signe, ça. Je crois pas non plus. Les Jones possédaient une maison à Alpharetta. La municipalité a exercé son droit de séquestre au printemps 2007 pour récupérer des arriérés d'impôts fonciers. Depuis, la maison a été saisie. Je n'ai trouvé aucune trace d'un signalement de disparition pour Veronica ou Virginia Jones. Et pourtant, toutes deux se sont manifestement envolées. Depuis février 2006, demanda Sal perplexe. C'est en février que Ginny a cessé d'aller au lycée. Donc j'imagine que c'était dans ces eaux-là. Mais d'après ta copine, Delilah Rose, Ginny n'a disparu qu'il y a 3 mois, en novembre 2007. J'ai un peu de mal à y retrouver mes petits. Ah, mais c'est là que l'appel téléphonique devient intéressant. Suppose un instant que la femme de la cassette soit la mère de Ginny, Veronica Jones. Vu que c'est ce qu'elle dit, ça se tient. Bon, disons qu'elle a été enlevée en février 2006. Ginny rentre à la maison, mais il n'y a personne. Et soir après soir, il n'y a toujours personne. Ginny pourrait faire ce qui s'impose et contacter les autorités. Mais quelle adolescente ferait une chose pareille? Au lieu de cela, elle met les bouts. Peut-être qu'elle a des copines à Sandy Springs, ou alors elle se dit que ce sera super d'aller un peu en boîte, de faire les 400 coups, de ne jamais avoir de couvre-feu. Elle part faire la bringue, se laisse entraîner, ne revient jamais. Voilà. Maman est donc la victime numéro 1. Et quasiment 2 ans après, compléta Sal d'un air dubitatif, Ginny est la victime numéro 2. En fait, corrigea Kimberly, Ginny est la victime numéro 3. Tommy Mark Evans sort du lycée d'Alpharetta en juin 2006. Quarterback vedette, mention très bien, héros local à tout point de vue. Il a décroché une bourse complète pour l'Université de Pennsylvanie et il s'y rend à l'automne. Il revient pour les vacances de Noël. Le 27 décembre, il annonce à ses parents qu'il va faire un tour en voiture et ne revient jamais. On retrouve la voiture 3 jours plus tard, planquée sur un vieux chemin de terre. Tommy est effondré sur le volant, abattu de 2 balles dans le front. Sal haussa un sourcil. Il y en a contre regarder les Sopranos. Quelque chose qui permette de penser que Tommy touchait à la drogue, qu'il en prenait, qu'il dealait. Peut-être que le paysage avait changé pendant son absence et que le nouveau Caïn n'appréciait pas son retour. Harry, l'entraîneur, ne croit pas. Mais vu qu'il considérait Tommy comme un demi-dieu, je ne prendrais pas son opinion pour argent comptant. Le commissariat d'Alpharetta a mené l'enquête. D'après Harry, ils n'ont jamais trouvé de vraies pistes ni arrêté personne. Les parents sont encore assez démolis d'avoir perdu leur fils comme ça à Noël. Donc maintenant, nous avons un parent disparu et un camarade de classe mort, tous deux liés à Ginny Jones. D'autres tragédies à Alpharetta dont je devrais être au courant? Eh bien, c'est une grande ville, répondit Kimberly en haussant les épaules. Nous n'en sommes probablement qu'au début. C'est pour ça que tu devrais discuter avec la police d'Alpharetta. Moi? Ils prendront plus vite tes appels que les miens. D'ailleurs, officiellement, je ne suis même pas sur cette enquête. J'ai fait tout ça par pure bonté d'âme. Sal eut à nouveau l'air méfiant. Kimberly ne l'en blâmait pas. Quel agent fédéral surmené faisait quoi que ce soit par pure bonté d'âme? Quand même, un merci aurait été le bienvenu, se disait-elle. Penses-tu? Je veux la chevalière, dit Sal. Mon affaire, mon indice. Elle est au chaud en magasin, lui assura-t-elle. Je vais organiser le transfert. Autre chose que tu ne m'aurais pas dit? Kimberly allait répondre par la négative lorsqu'elle se rendit compte qu'elle avait omis un autre fait, assez marquant, et soupira. Il se pourrait que Delilah Rose ait indiqué que Ginny Jones avait été vue pour la dernière fois en compagnie d'un client qui se fait appeler Monsieur Dinekara. Monsieur Dinekara. Un anagramme d'arachnide. Il semblerait que Monsieur aime venir avec ses bestioles. Tu vois, rien de tel qu'une petite sortie en compagnie de ta mégale préférée. Sal semblait littéralement fasciné. Tu rigoles ? Pas du tout. J'imagine que personne ne t'avait encore parlé de lui. Bah, je crois que je me souviendrai d'un truc pareil. Qu'est-ce qu'il fait avec ses araignées ? Oh, il les fait se balader dans différentes parties du corps des filles. Ou avec un supplément, regardez. Regardez. Tu n'as jamais l'impression que le monde est de plus en plus flippant ? Seulement chaque fois que je regarde un reality show. Donc, un monsieur Dinekara, avec sa copine Mégal. Mince, ça devrait pas être trop difficile de se rencarder sur un lascar aussi unique. Quel est son lien avec Jones ? Il était son client. J'imagine que les araignées ne dérangeaient pas Ginny, de même qu'on peut penser qu'elle ne gênait pas Mademoiselle Rose. Il semble qu'elle est un faible pour tout ce qui a huit pattes. Cela dit, en plus d'avoir vu Ginny pour la dernière fois en compagnie de Monsieur Dinekara, Delilah prétend avoir retrouvé la chevalière de Tommy sur le plancher de son 4x4. Ginny la portait à une chaîne autour du cou, comme un talisman. D'après Delilah, elle ne l'aurait jamais abandonnée volontairement. Sal se posait à nouveau des questions. Si Ginny portait la chevalière de Tommy autour de son cou, tu n'en déduirais pas qu'ils étaient plus que de simples camarades ? Généralement, porter la chevalière d'un type indique plus que de l'amitié. Alors manifestement, il y a davantage à savoir sur Tommy Mark Evans que l'entraîneur ne le soupçonne. C'est toujours le cas. Mais si Ginny et Tommy étaient tellement proches, pourquoi Ginny a-t-elle pris la tangente ? Pour autant que je sache, devenir la petite amie du beau quarterback vedette donnerait à n'importe quel ado une raison de rester. Voyons, rien que le plaisir de crâner. On tourne en rond, soupira Sal. Ah, c'est ce qui arrive quand on manque d'informations. Résultat des courses. Nous avons maintenant 10 femmes disparues, un quarterback mort, une chevalière reliant les disparus A au cadavre B et un homme mystère qui a une araignée au plafond. J'ai raté quelque chose ? 10 cadavres. Il fit la moue. Autre chose ? Elle haussa les épaules, plus sérieuse cette fois-ci. La seule vraie piste dont nous disposions, à savoir Delilah Rose. Chapitre 14. Le venin est essentiellement employé comme paralysant pour neutraliser la proie, qui peut en réalité survivre 4 ou 5 jours. L'araignée se nourrit ensuite à sa convenance. Tiré de Biology of the Brown Recluse Spider, Julia Maxenheit, William J. Gladney, J. L. Lancaster Jr. and W. H. Whitcomb, Service d'entomologie, Département d'agriculture, Université d'Arkansas, Fayetteville, mai 1966. Il était plus de 6 heures lorsque Kimberly quitta son travail. La circulation était engorgée, l'autoroute un long et inextricable embouteillage. Elle songea à retourner au bureau pour attendre que les encombrements diminuent. Dieu savait qu'elle avait 1 million de coups de fil à passer, de demandes d'enquête à traiter, de rapports à lire, mais elle ne le fit pas. Elle se rendit à Alpharetta. Elle ne connaissait pas bien le coin. Atlanta était si étendue qu'elle pourrait y vivre des dizaines d'années sans avoir un début d'idée des banlieues tentaculaires dont l'explosion accompagnait la croissance phénoménale de la ville. Celle-ci lui faisait l'effet d'une toile toujours plus large qui engloutissait les élevages de volailles et les routes de campagne, si bien que ce qui, une année, avait été une route panoramique devenait, l'année suivante, le lieu d'implantation du tout nouveau centre commercial. Et pourtant, l'État digérait cet essor urbain avec une relative facilité. On trouvait encore la quiétude à 2 heures de là, dans les montagnes, au nord, ou à 3 heures sur les plages du sud. Mac affirmait qu'il n'y avait pas un endroit au monde où il préférerait vivre. Elle-même étudiait encore la question. Mais elle était armée d'un plan, d'un téléphone portable et d'une mémoire quasi photographique. Comment aurait-elle pu vraiment se perdre ? Le trajet jusqu'à la maison de Ginny Jones ne se passa pas trop mal. Le domicile déserté se dressait, petit et gris, sur fond de ciel assombri. Les fenêtres étaient condamnées avec des planches, le jardin dans un état d'abandon désolant. Et pourtant, de toutes les maisons du quartier, ce n'était pas celle qui semblait la plus négligée. À mesure que Kimberly parcourait les petites rues, les parcelles se firent plus grandes, les maisons plus vastes, les gazons de mieux en mieux entretenus. Il lui fallut se tromper de rue une demi-douzaine de fois pour, au bout d'une vingtaine de minutes, trouver l'adresse suivante sur sa liste, la maison de Tommy Mark Evans. C'était une majestueuse demeure coloniale en briques, perchée au sommet de 10 hectares de pelouse vert émeraude. Un 4x4 BMW argenté est égaré dans l'allée bordée d'arbustes, artistiquement taillée en forme de spirale. Cela en apprenait assez à Kimberly. Donc, Ginny était la pauvre, orpheline de père, Tommy, le riche champion de football. Mais la situation était-elle plus du type Cendrillon et le prince charmant, ou la belle et le clochard en inversant les sexes? Kimberly commença à entrevoir des possibilités. Celle, par exemple, que Tommy, tout en sortant avec Ginny Jones, se soit senti obligé de le cacher sous la pression de ses camarades et ou de ses parents. Peut-être que Ginny avait été un peu chatouilleuse sur ce point. Raison de plus pour fuguer lorsque maman n'était plus rentrée le soir à la maison. Kimberly avait un dernier arrêt à faire. La nuit était maintenant tout à fait tombée et elle avait du mal à lire le plan en conduisant. Elle fit le trajet par étapes de 500 mètres, parcourant les méandres d'un labyrinthe de petites rues, de zones de bureaux et de quartiers résidentiels, jusqu'à manquer de se perdre. Elle pensait être plus près de chez Ginny que de chez Tommy, mais n'en était plus certaine. À gauche, après le chêne, à droite, après le grand hêtre. Les pneus quittèrent l'asphalte. Elle brinque-ballait sur de la terre, un des tout derniers chemins vicinaux du coin. D'ici un an, ce serait probablement construit, et il ne resterait plus rien pour signaler le lieu où un jeune homme était mort. Elle trouva sans difficulté l'endroit exact. Une croix blanche luisait dans l'obscurité, une couronne de Noël sèche à son pied, un nœud rouge battant légèrement au vent. Kimberly se gara à 20 mètres de là. Elle attrapa son blouson et finit à pied jusqu'au monument. Il était plus de 19h30 à présent. Elle n'était pas loin de la civilisation, mais les arbres formaient un écran efficace. Et de là où elle se trouvait, elle ne pouvait ni entendre le bruit des voitures, ni distinguer les lumières lointaines d'une ville trépidante. Comme la nouvelle lune était noire et invisible dans le ciel, le seul éclairage était celui des doubles phares de sa voiture. Tout était calme, silencieux. Malgré elle, elle frissonna. Tommy Mark Evans, lisait-on de haut en bas sur la croix, puis sur les branches, à notre fils bien-aimé. Kimberly regarda autour d'elle. L'épais bosquet de rhododendrons, presque plus haut qu'elle, les silhouettes fines et déchiquetées des pins qui, çà et là, griffaient le ciel de la nuit. Elle sentit les profondes ornières du chemin de terre sous ses pieds, se servit de sa lampe de poche pour éclairer les sillons creusés par les pneus. Elle imaginait bien un jeune homme conduisant comme un fou sur ce chemin, pied au plancher, hurlant chaque fois que ses énormes pneus heurtaient une ornière et l'envoyaient planer dans les airs. Elle imaginait bien un jeune homme et sa bonne amie garés sur le bas-côté pour se ploter à qui mieux jusqu'à embuer le pare-brise. Mais elle n'imaginait pas un étudiant venir ici tout seul et s'arrêter sans raison pour être retrouvé avec 2 balles dans le crâne. Tommy Mark Evans connaissait son agresseur. Cela ne faisait aucun doute dans l'esprit de Kimberly. Une chouette ulula. Un écureuil jaillit, traversa l'allée comme un dératé. Kimberly regarda l'herbe frissonner de l'autre côté du chemin longtemps après que l'écureuil eut disparu dans les broussailles et la chouette descendit en piqué au-dessus d'elle. Elle sentit un petit battement dans son flanc, son enfant qui s'éveillait. Elle pressa sa main contre son bas-ventre et un instant, ce puissant sentiment de vie, au moment où elle se trouvait sur les lieux d'une telle tragédie, la plongea dans une tristesse indicible. Elle se demanda comment les parents de Tommy avaient vécu les fêtes de fin d'année. S'étaient-ils entourés de photos de leur fils ? Ou bien trouvaient-ils plus facile de faire comme s'ils n'avaient jamais existé ? Comment le père de Kimberly avait-il pu faire ça ? Regarder toutes ces photos, se rendre sur toutes ces scènes de crime où des jeunes filles et des jeunes garçons avaient été assassinés avec un luxe de cruauté, et ensuite rentrer chez lui et retrouver sa famille tous les soirs. Comment console-t-on son enfant qui pleure pour un genou écorché quand on porte en soi l'image d'une autre fillette privée de doigts ? Comment dire à son enfant que les monstres n'existent pas quand chaque jour que Dieu fait, on est témoin de leur œuvre ? Et comment avait-il supporté ce coup de téléphone qui était finalement arrivé au milieu de la nuit ? « Monsieur, nous avons le regret de vous apprendre que votre fille... » Kimberly elle-même pensait rarement à sa sœur. À sa mère, oui. Mais à Mandy... Ce deuil était plus insidieux. Elle n'aurait su dire pourquoi. Un enfant s'attend à perdre un jour ses parents, mais sa sœur. Une sœur est une compagne, une égale. Elles étaient censées grandir ensemble, assister au mariage l'une de l'autre... échanger des conseils sur l'éducation des enfants et un jour essayer de décider comment s'occuper au mieux de papa. À une époque, Kimberly avait été la cadette d'un duo. À présent, elle était fille unique. On aurait pu croire qu'elle s'y ferait, mais non. Kimberly tourna les talons, se dirigea vers sa voiture, les bras croisés sur sa poitrine pour se réchauffer. Elle n'avait pas fait deux pas que son portable sonna. « Il faisait trop noir, » se dit-elle. Elle était trop seule, la tête trop pleine d'idées bouleversantes. Les derniers cris désespérés de Veronica Jones, sa sœur, la tête enveloppée dans de la gaze blanche sur le lit d'hôpital, lorsque le médecin l'avait débranchée, comme on dit, et qu'ils étaient restés, ses parents et elle, à la regarder mourir. Et puis, juste un an plus tard, la maison de l'épouvante qui était devenue l'ultime combat de sa mère. Mandy avait eu de la chance. Elle n'avait pas vécu assez pour savoir que sa mort avait scellé le destin de leur mère. Veronica Jones avait-elle compris ? S'était-elle réellement rendue compte des conséquences qu'aurait son aveu tourmenté pour sa fille ? Son téléphone sonna à nouveau. Kimberly voulait s'en aller. Mais elle était la fille de son père, incapable de dire non, même si, plus que tout autre, elle aurait dû savoir se méfier. « Agent spécial Quincy ?» répondit-elle. « Rien. » Elle attendit que quelqu'un lui dise de se taire, qu'une autre scène macabre commence à se jouer en fond sonore, mais les secondes se succédèrent. Elle n'entendait rien du tout. Elle vérifia la force du réseau, essaya de nouveau. « Agent spécial Quincy ?»« Toujours pas un mot. » Mais en se concentrant, il lui sembla distinguer le bruit d'une respiration sourde et régulière. Elle laissa le silence se déployer à nouveau. Cette stratégie ne donnait rien. « Je voudrais vous aider, » dit-elle alors. « C'est d'accord si vous avez besoin de parler. » « Rien. » « Y a quelqu'un ?» Vous avez peur qu'on vous surprenne ? Faites seulement un bruit, comme un raclement de gorge. Je prendrai ça pour un oui. Mais l'interlocuteur garda le silence. Avec un sentiment de frustration grandissant, elle se mit à marcher en petit cercle. Vous êtes en danger ? Rien. Si vous me parlez, si vous me fournissez des informations, il se peut que je sois en mesure de vous offrir une protection. Mais vous ne pouvez pas vous contenter de faire mon numéro. Il faut que vous soyez prêt à parler. » Alors, enfin, à nouveau cette petite voix, tendue, mais étouffée comme celle d'un enfant.
Chut.
S'il vous plaît, je veux vous aider.
Il sait ce que vous faites.
Qui sait?
Il sait tout.
Pouvez-vous me donner un nom?
Ce n'est qu'une question de temps.
Écoutez-moi, vous serez le prochain spécimen de la collection. Est-ce qu'on peut se voir? Donnez l'heure et le lieu, j'y serai.
Chut!
N'oubliez pas de regarder en l'air. La communication fut coupée. Kimberly resta là un moment encore, cramponnée à son téléphone, complètement abasourdie. Et puis, parce que c'était irrépressible, elle regarda en l'air. Le ciel de la nuit béait au-dessus d'elle, un semis d'étoiles, la lueur plus lointaine de la ville. Elle se força à observer les contours obscurs des arbres, les buissons, l'horizon au loin. Rien ne menaçait dans ces ténèbres inconnues. Aucun croque-mitaine ne surgissait pour s'emparer d'elle. Puis, sur sa droite, une branche craqua. Perdant toute dignité, elle fonça vers sa voiture, courut comme une folle, tâtonna avec sa clé. Elle ouvrit la lourde portière d'un coup sec et sauta à l'intérieur. Claquer la portière, verrouiller, faire démarrer le moteur. Elle se ressaisit juste avant de dévaler le chemin de terre en trombe, telle l'héroïne à moitié nue d'un film d'horreur pour ados. Elle était une professionnelle, bon sang, et lourdement armée. Elle calma sa respiration et, bien à l'abri dans sa voiture, procéda à un dernier état des lieux. Pas de mouvement dans les bois autour d'elle. Pas de cavalier sans tête qui déboulait vers elle. Juste une croix blanche, solitaire, prise dans le réticule de ses phares. Elle rentra lentement chez elle, en essayant de comprendre la dernière mise en garde de son interlocuteur. Si seulement tout ce qui avait trait à cette affaire pouvait ne pas la remplir d'angoisse. Mac était à la maison lorsqu'elle arriva. Elle se gara à côté de sa voiture, arrêta le moteur. Elle se colla un sourire sur le visage, puis affronta la maison. Il y avait de la lumière dans le couloir, dans la cuisine aussi. Elle balança son sac à bandoulière, enleva son blouson, tout en remontant le couloir. Aucun signe de Mac. Elle essaya le séjour où se trouvaient la télévision grand écran et le fauteuil relax en cuir noir préféré de Mac. Toujours pas de mari. Elle retourna dans la cuisine pour y chercher un message, sentant la panique monter à nouveau en elle sans vraie raison. Il était peut-être sous la douche, ou bien dans le jardin, ou chez les voisins. Il y avait un million d'explications logiques. Sauf que maintenant, elle se posait des questions. Celui qui l'avait appelé connaissait son numéro de portable. Que savait-il d'autre sur elle? Kimberly. Elle sursauta et fit volte-face, posant par réflexe sa main sur son cœur. Mac se tenait sur le seuil de la cuisine, en blouson d'aviateur, ses cheveux bruns ébouriffés par le vent, comme tout juste rentré d'une promenade.
« Mon Dieu, tu m'as fait peur !»
dit-elle en baissant sa main, se trouvant toute bête. Mac continua à la regarder d'un air sombre, sans esquisser un geste pour traverser la cuisine, l'embrasser sur la joue, l'accueillir. « Il est tard, » dit-il enfin.
« Désolée, j'étais retenue au boulot. »
« J'ai appelé le bureau. »« J'étais sortie, » répondit-elle, contrariée par son ton.
« Il y a un problème. Si tu avais tellement besoin de me joindre, tu n'avais qu'à appeler mon portable. »«
Je ne voulais pas m'en servir, » dit-il sèchement. Kimberly resta interloquée. « Mais qu'est-ce qui se passe, Mac ? Ça m'arrive tout le temps de bosser tard. À toi aussi. Depuis quand on joue les inquisiteurs ?»«
Tu travailles sur cette enquête. »«
Quelle enquête ?» Il fit alors un pas en avant, le visage grave.
« Tu sais de quoi je parle, Kimberly. » Delilah Rose, ce type aux araignées. Tu t'impliques, enceinte de 5 mois. Enceinte de 5 mois, bon sang, et tu patauges dans cette merde jusqu'au cou.
Évidemment, je suis agent fédéral. C'est mon boulot de patauger dans la merde.
Non,
c'est le boulot du FBI et du JBI. Or, justement, cet état regorge de centaines d'enquêteurs parfaitement qualifiés qui pourraient tous s'occuper de cette affaire. Comme Sal, ou ton copain Harold, ou Mike, ou John, ou Gina. Tous compétents, sérieux et tout aussi tenaces que toi. Mais ils ne peuvent pas mener cette enquête, hein, Kimberly. Il faut toujours que ce soit toi. Eh, je te signale que j'ai refilé le bébé à Sal Martignetti ce matin à la première heure. J'ai même organisé le transfert de la chevalière à la police d'État. Tu as eu ce que tu voulais, Mac. La balle est dans le camp du JBI. Mais tu étais où dans ce cas ? Il posa la question tranquillement. Et ce fut ainsi qu'elle sut qu'elle était dans le pétrin. Alors elle se braqua et se prépara à une dispute qu'ils regretteraient sans doute tous les deux. Mais ils étaient ici et maintenant, et elle avait toujours eu horreur d'avoir tort. Depuis quand il faut que je rende des comptes sur mon emploi du temps ? Bordel ! Explosa Mac. Tu crois que je sais pas ? J'ai déjà eu Sal au téléphone. Qui, à ce propos, veut te parler de son entrevue avec les parents de Tommy Mark Evans ? Tu es allé jeter un œil par toi-même, hein, Kimberly ? Incapable de t'en remettre à Sal pour faire le nécessaire ? Non, le gars a seulement enquêté sur 50 ou 60 homicides ces 10 dernières années. Qu'est-ce qu'il pourrait bien connaître à ces trucs-là ? Tu as écumé les bars ? À la recherche d'une pute ? Ou bien tu t'es planté à un coin de rue en criant « Ohé, monsieur le psychopathe ! Venez voir le tout nouvel appât !» Mais j'ai rien fait de ce genre. J'ai circulé en voiture dans Alfarella pour voir les maisons de Ginny et Tommy. Rien de dangereux, une simple balade. Et ton téléphone ? Il a pas sonné ? Elle pinça les lèvres avec une moue rebelle, ce qui était une réponse suffisante. Cette fois-ci, Mac donna du poing sur le plan de travail. « Ça suffit. En tant que mari, je n'ai jamais fait la loi, mais trop, c'est trop. Si tu n'as pas assez de bon sens pour t'en apercevoir, moi si. Tu ne travailles plus sur cette enquête. Finito, terminé. Que Sal s'en occupe. Ça va. Ce n'était qu'un appel obscène, la respiration rauque, tout ça. Je ne vais pas me laisser effaroucher par un gamin qui s'amuse. » Et tu devrais même avoir honte de le suggérer. Mais Kimberly, tu ne comprends pas ? Comprendre quoi ? Cria-t-elle en retour, réellement déroutée. Qu'il ne s'agit plus de toi. Qu'il s'agit de notre enfant, du bébé qui grandit dans ton ventre. Et qui, en grandissant, apprend déjà à connaître le monde, même dans l'utérus. Notre enfant a des oreilles, tu sais. J'ai vérifié dans ce foutu livre que tu m'as refilé. Après 20 semaines de grossesse, les bébés entendent. Et qu'est-ce que tu crois que notre enfant a entendu la nuit dernière ? Il fallut une seconde à Kimberly. Alors elle réalisa, et ses mains se portèrent instinctivement à son ventre, caressant le doux renflement dans un geste protecteur tardif. Elle n'avait pas pensé, ne s'était pas rendue compte. Mais oui, elle avait dépassé le terme des 20 semaines. Le moment où le fœtus peut entendre, et où les mères réellement dévouées commencent à écouter du Mozart ou du Beethoven pour mettre au monde des génies. Sauf que Kimberly n'avait ni le temps ni la patience pour ces âneries. Non, elle se contentait de faire écouter des cris d'agonie à son bébé. « Je suis sûre... » commença-t-elle avant de s'arrêter, incapable de continuer. Les épaules de Mac finirent par se relâcher. À l'autre bout de la cuisine, la colère semblait le quitter. Il paraissait seulement hagard. Elle aurait dû aller vers lui, se dit-elle. Passer ses bras autour de sa taille, poser sa tête sur sa poitrine. Peut-être que s'il sentait le bébé bouger comme elle le sentait bouger, il comprendra que leur enfant allait très bien, que les bébés sont résilients, blablabla. Mais elle était paralysée. Figée. Son bébé entendait. Et qu'avait-elle fait entendre à son bébé la nuit dernière ? Mac avait raison. La vie avait changé. Kimberly, tenta Mac, plus doux cette fois, fatiguée. On va s'en sortir. Si je démissionne ? Demanda-t-elle posément. Si j'arrête de bosser, d'être un bourreau de travail, d'être moi-même ? Tu sais que je te demanderai jamais ça. « Mais si, tu le fais ?»« Non, pas du tout, » insista-t-il en élevant de nouveau la voix. « Il y a une différence entre ne pas travailler du tout
et ne pas travailler sur les crimes de sang. Il y a une différence entre te demander de rester à la maison et te demander de limiter tes horaires à 40 heures par semaine. Il y a une différence entre dire « Eh, balance toutes tes missions par-dessus bord » et dire « Kimberly, par pitié, ne te lance pas dans une nouvelle enquête qui n'est même pas du ressort du FBI. Je ne te demande pas la lune, le soleil et les étoiles de la nuit, je demande simplement un peu de jugeote. » Un peu de jugeote? J'aurais peut-être pu trouver un meilleur mot. Qu'est-ce qui a changé pour l'instant, Mac? Dis-moi un peu, qu'est-ce qui a vraiment changé? À son tour d'être décontenancé. Il y a le bébé. La grossesse. Il ne s'agit pas encore d'un bébé, c'est de mon corps qu'on est en train de parler. Le même corps avec lequel je vais travailler depuis 4 ans et que je ramène sain et sauf. Ce n'est pas tout à fait vrai. Oh que si! Tu veux me parler de confiance? De jugeote? Alors fais-moi confiance pour prendre soin de moi et de ce corps comme je l'ai fait ces 4 dernières années. Je ne me mets pas au milieu de fusillade. Je ne participe pas aux missions à risque. Je ne vais même plus au stand de tir pour éviter d'être exposée au plomb. Merde, je viens de passer 6 jours sur le théâtre d'un accident et je n'ai même jamais franchi le ruban jaune juste par précaution. Je prends mes vitamines, je ne bois pas, je surveille ma consommation de poissons frais. Franchement, je m'occupe super bien de moi et du bébé, et pourtant, au premier coup de fil venu, te voilà prêt à jouer les gros bras. Eh, c'est trop difficile pour toi, poupée, sur la touche. Je n'ai pas dit ça. Tu aurais aussi bien pu. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Demanda Mac en haussant à nouveau le ton. Comment peux-tu être aussi butée? C'est notre bébé. Comment peux-tu ne pas l'aimer autant que je l'aime? À l'instant où il prononça ces mots, elle vit qu'il aurait voulu les retirer. Mais c'était trop tard, bien sûr. Il l'avait énoncé, ce constat latent entre eux depuis le moment où elle avait découvert sa grossesse. Sa peur à lui. Sa peur à elle. Elle pensait que ça serait douloureux. Ce fut le cas. Kimberly, je crois qu'on devrait en rester là pour ce soir. Tu sais que je le pense pas, mais si tu le penses, Mac, tu le penses. Ta mère est restée à la maison avec vous, tes sœurs sont à la maison avec leurs enfants. Tu as beau dire, tu es encore un conservateur dans l'âme. Le mari travaille, la femme reste à la maison. Et elle devrait en être heureuse, à supposer qu'elle aime sa famille. Tu as raison, on devrait en rester là. C'est ce que je fais. Elle tourna les talons, remonta à pas lourd le couloir jusqu'à leur chambre. Elle s'attendait à ce qu'ils la suivent. C'était leur habitude. Elle était obstinée, fière, têtue comme une mule, mais il finissait toujours par l'apaiser en lui parlant, lui volant un baiser, la faisant sourire. Elle avait besoin qu'il l'apaise. Qu'il la prenne dans ses bras en lui disant qu'elle allait être une bonne mère, qu'elle n'était pas aussi ignoble, égoïste et autodestructrice qu'elle en avait soudain l'impression. Mais Mac ne la suivit pas dans le couloir. Après quelques instants, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir, se refermer, et elle fut toute seule.